Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, un Silence on Joue spécial jeu d'aventure. Allez, on va dire que c'est un spécial jeu d'aventure parce que nous allons parler de Grim Fandango, le grand retour remastered du chef-d'œuvre. Je spoil un peu disant chef-d'œuvre.
Tu peux le dire. Ouais. Je pense qu'on est tous derrière toi.
De Tim Schafer, donc, et Chrysalis, le premier épisode de Life is Strange, le jeu par épisode donc de Dontnode, le studio français qu'on avait reçu à l'époque, il y a très longtemps, en public, dans une de nos rares incartades en public, en janvier 2013, et qui avait fait Remember Me, et donc là, qui sont de retour avec Square Enix, pour un jeu par épisode dont on parlera en deuxième partie d'émission. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro de 20 minutes, bonjour Joël.
Bonjour.
Et Patrick Elio du JDLI, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
On commence avec toi Joël, avec un tournoi de League of Legends.
Oui, c'est un truc un petit peu tout moche là qui est arrivé. Donc l'organisateur d'un tournoi dans le sud-est asiatique qui s'appelle Garena, si je ne me trompe pas, organisait un tournoi qui s'appelle The Iron Solari. Et donc sur un forum, ils expliquaient un peu les règles de ce tournoi. Et parmi ces règles, il y a quelque chose d'assez fou qui avait été noté, c'est que donc ce tournoi il y avait une partie spécifiquement féminine. Bon, déjà quelque chose que j'ai toujours un peu du mal à comprendre, c'est pourquoi dans les tournois pour les tournois de e-sport, on sépare les hommes et les femmes. Oui. J'ai jamais trop compris pourquoi. Bref, donc dans cette section de tournois féminin, en fait, il était noté qu'il devait y avoir seulement au maximum une seule personne qui soit lesbienne ou femme, transgenre. Et ils s'en expliquaient en disant que c'était pour équilibrer les équipes et que les personnes donc lesbiennes ou personnes transgenres pouvaient être plus faibles que les autres. Ça a fait évidemment...
C'est dans les équipes de filles.
Ah
oui, voilà. Mais en quoi... C'est argumenté ou...
C'est juste simplement dans leur poste, ils mettent simplement que c'est pour qu'il y ait un équilibre respecté dans toutes les équipes, parce que les personnes lesbiennes ou les femmes transgenres ont un léger désavantage. Quoi. Un tollé sur la toile, dans les commentaires. Et le lendemain, ils sont rapidement, aujourd'hui, donc mercredi où on enregistre, ils sont revenus sur leur décision en s'excusant, tout bassement auprès de la communauté de joueurs et de joueuses qui étaient furieux, évidemment.
Mais sans expliquer comment ils ont pu sortir une ânerie par
exemple. Sans expliquer.
Parce qu'il y avait sans doute un abruti de l'autre côté du clavier qui n'a rien trouvé de mieux.
Tout simplement.
Faire jouer ses préjugés à lui dans un règlement d'un tournoi, ce qui est quand même pas malin.
Garena adresse ses plus sincères excuses auprès de la communauté gay et lesbienne. Et c'est le moins qu'on puisse faire.
Non, c'est le moins qu'on puisse faire. Patrick, des nouvelles du Chevalier Blanc.
Oui, alors, pas c'est vraiment. C'est vrai que je...
Ah mais toi, tu l'as dit White Night, alors je pensais que c'était... Ah non, c'est la nuit blanche, c'est ça.
C'est plus ça, voilà. C'est
mais j'aurais bien aimé le White Night. Pour moi, c'est Chevalier Blanc.
Mais on n'est pas très loin, mais c'est pas grave.
On est hyper loin, là.
Non, mais c'est pas très, très grave. Non, mais moi, je suis content parce que ça fait des semaines, des mois que je suis ce projet français. Je suis ça de loin, parce que j'ai pas pu l'approcher jusqu'ici. Moi, j'ai vu des visuels, des vidéos pour l'instant. Donc, ça s'appelle White Night, donc une nuit blanche pour bien situer le sujet. Et donc, la bonne idée, c'est qu'on sait, on a enfin une date de sortie. On sait que ça va sortir donc chez Activision Blizzard. C'est l'éditeur qui va s'en occuper. Ça sort le 3 mars sur PC Mac, le 4 mars sur PS4 et le 6 mars sur Xbox One. Alors, qu'est-ce que c'est White Night? C'est un survival horror. Ça, on en a déjà vu quelques-uns. Mais alors, sa particularité qui nous capte tout de suite les yeux lorsqu'on voit quelque chose tourner, c'est qu'il est uniquement en noir et blanc. Les visuels sont uniquement en noir et blanc. C'est très avec des visuels qui sont immédiatement reconnaissables. Et donc on incarne d'après ce que j'ai cru comprendre, un enquêteur qui se retrouve en pleine nuit dans une maison à la recherche de quelque chose, et on a juste quelques points de lumière comme ça qui interviennent dans le jeu, c'est-à-dire qu'il a un briquet, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai pas pu encore l'essayer. Moi, c'est un titre qui m'avait tapé.
C'est en bichromie.
Bichromie, voilà. C'est bichromie, pas, un peu à la Mad World. Je sais pas si vous vous rappelez Mad World de Sega, mais on est vraiment dans un autre genre de jeu total.
Ou Limbo, enfin, avec
tout. Ou Limbo. À part là, on est vraiment sur, d'après ce que j'ai pu voir visuellement, on est vraiment sur un côté très fractal, avec des angles vraiment tranchés visuellement. Enfin, je trouve que ça a une pêche visuelle très, très prometteuse. Ça fait vraiment envie. Et donc voilà, une question de semaine. Et moi, ça faisait un moment que j'attendais.
C'est quoi la date, tu as dit, mais.
3 mars. PC, 4 mars. D'accord. PS4 et 6 mars Xbox One. Okay. Et on va suivre ça de très très près parce que voilà, ça fait vraiment envie. C'est un studio lyonnais, Osmose, qui signe ce jeu. Ça va sortir uniquement en démat. Et Osmose, c'est quand même des anciens de Quantic, des anciens de Alone in the Dark 5. Donc c'est des gens qui connaissent plutôt bien le domaine du survival et du jeu d'aventure. Donc ça va être très très intéressant à suivre. On sera là. Un autre chiffre, moi, que j'ai vu passer pas plus tard que ce matin, ce sont les 45 millions de GTA V vendus par Rockstar au magasin. Donc, on situe bien. Donc, dans le monde. Donc, c'est quand même assez colossal. Hein. GTA V, c'est vraiment un gros morceau. Surtout, ces 45 millions, c'est hors vente des maths, qui sont quand même importantes de plus en plus. Et hors PC, parce que le PC n'est pas encore sorti.
En mars.
Il arrive, oui, je crois. Il était un petit peu reculé et il arrive bientôt. Et sur ces 45 millions, pour info, on apprend qu'il y a 10 millions de ventes qui se sont faites sur les deux dernières consoles, donc PS4 et Xbox One. Ça montre que ça a bien répondu aussi au niveau des nouvelles bécanes. Et que voilà, donc GTA V, c'est quand même un de ces gros phénomènes des dernières années et encore aujourd'hui.
Il faudra que j'essaye de la version
très très bien.
Il faudra que j'essaye quand même la version
qui pousse
génération.
Bien visuellement, qui affine pas mal et qui est plus confortable.
Ah, je suis désolé, je suis enrhumé aujourd'hui.
Nous le sommes tous, Erwan.
Je vais essayer de... Alors, le com des com de la semaine dernière, on commence avec Gizit qui dit « Il n'y a pas à dire, l'enthousiasme de Patrick est communicatif. J'avais vu passer le jeu sur PSN sans y prêter attention. » Alors, il parle évidemment de Rock Bosher, des X.
Ah oui, bien sûr. Bah,
j'avais vu passer le jeu sur PSN sans y prêter attention, mais maintenant, j'ai l'impression de regarder des images... en regardant les images du jeu, de me retrouver marmot avec les yeux émerveillés devant des boîtes des jeux de l'Amstrad 6128.
Et ben voilà, le monsieur a tout compris. On est bien d'accord. Et si j'ai pu servir à ça, et voilà, ça me fait plaisir.
Et un achat compulsif ce week-end. Et bravo pour votre podcast. Oui, mais je vais jusqu'au bout du poste. J'aime bien toujours lire les bravos. Et juste Andy Warhol qui revient sur 80 Days, dont on a parlé donc la semaine dernière. Je partage totalement l'enthousiasme à propos de 80 Days. J'ai adoré plonger dans cette relecture et réécriture du classique de Verne, l'univers steampunk et la modernité des thématiques aidant franchement à l'immersion. Et comme et que ce soit lors de sessions courtes entre deux stations ou plus longuement sous la couette, le jeu est parfaitement construit et sa narration incroyable nous emporte en quelques lignes. Il est d'ailleurs passionnant de retenter l'aventure, non pas pour réussir le pari, mais pour exploser chaque piste narrative avec le temps qu'il faut pour les dérouler entièrement. J'ai par exemple été extrêmement peiné de ne pas pouvoir pousser une historette à bord du Transsibérien simplement parce qu'un harem était impératif pour récupérer des fonds. Ce sera pour un autre voyage certainement. Et vu qu'il s'agit d'un poste d'Andy Warhol, il continue encore et encore, mais vous pouvez le retrouver sur les forums d'écran, les forums de Silence en Joue sur libération.fr. Voilà, et donc là, c'est le moment de revenir un peu dans le passé, enfin, passé très présent pour le coup, avec Grim Fandango. Buenos días. Et donc, on revient en 1998, la fin, enfin en tout cas le jeu d'aventure point and click n'était, c'est voilà, la période dorée se terminait,
oui.
La période LucasArts, mais un dernier sursaut de...
Un baroud d'honneur,
un baroud d'honneur avec,
du signe.
Avec ce Grim Fandango qui explorait, qui tentait des choses du côté de la 3D. Voilà, et là je vais tout de suite laisser la main parce que j'ai l'impression de parler à sa place. Non, là, je vais tout de suite laisser la main à notre historien.
Non, mais c'est vrai que Grim Fandango, c'est un titre important. C'est vrai que c'est un jeu qui est déjà, qui a vraiment une personnalité forte. Et puis c'est un jeu qui est important sur plusieurs plans, je trouve, au niveau du, lorsqu'on pense au jeu d'aventure. Grim Fandango, c'est une date importante. Pareil, dans plusieurs aspects. Pour moi, déjà, d'une part, c'est vraiment l'émergence d'une signature. C'est Tim Schafer qui vraiment signe sa production. Donc Tim Schafer, c'est un des anciens de LucasArts qui est là depuis quasiment les débuts. Et c'est vraiment peut-être sa production la plus personnelle qui signe, ouais. Grim Fandango. C'est vraiment un projet, pour faire simple, en fait, il avait signé le Maniac Mansion 2, Dave's Tentacle, qui avait très très bien marché. Et en gros, LucasArts, tu dis, bon, bah, allez, vas-y, tu nous fais deux jeux qui te font envie. En gros, fais-toi plaisir. Et donc là, il signe... des jeux, des univers qui lui plaisent bien, des sujets qu'il aime bien. Donc il part d'un côté sur Full Throttle, qui sort un petit peu avant, donc dans le milieu des motards.
C'était sympa. Hein.
Qui était très très bien.
Ouais, voilà,
et il part sur ce deuxième projet donc, de Grim Fandango, qui lui se penche sur un tout autre sujet, hein, puisque lui il aborde alors le thème de l'au-delà de façon complètement décalée. Et c'est là où moi je trouve qu'on... On voit vraiment l'émergence d'un auteur, de l'auteur Tim Schafer dans ce jeu. C'est déjà, on sent cette capacité qu'il a à traiter des sujets, pas tabous, on va pas dire ça, mais des sujets graves. Il parle de la mort, il parle du passage au trépas, de l'au-delà, de ce qui se passe après, mais il le fait avec de l'humour. Il arrive à traiter ça d'une façon, certains diront peut-être païenne, quelque part. Il y a un peu un irrespect de tout ça, mais... C'est tellement dans l'état d'esprit LucasArts de l'époque où c'est fait avec brio, c'est fait avec, ouais, tact, c'est fait avec classe, avec humour, et on s'amuse. Et en même temps, voilà, on aborde ce sujet de voilà, qui est pas forcément si rigolo que ça à la base. Alors pour resituer, donc on incarne un certain Manny Calavera, donc c'est un agent qui est chargé dans l'autre monde de préparer le passage des personnes qui décèdent, qui arrivent ici et qui donc doivent commencer à faire leur trajet vers l'au-delà, en fait, vers l'après. Donc voilà, lui il est dans tout ça, et là on arrive vraiment dans un... Comme ça, ces mots peuvent effrayer, mais on arrive dans un univers très très pragmatique, voire terre à terre, très. C'est du business, hein. C'est vraiment lui. Ben voilà, c'est vraiment une bureaucratie à la Kafka, avec des tuyaux, avec les dossiers, etc. Et alors on va pas tout vous raconter toute l'histoire, mais elle est brillante, cette histoire, parce que on s'amuse, on rigole beaucoup en y jouant. Enfin moi j'y ai rejoué, et ça me fait toujours rire. Enfin il y a vraiment des fulgurances d'écriture, des remarques. C'est pas toujours les remarques les plus longues, les plus marrantes, mais il y a parfois quelques phrases, quelques personnages qui sont comme ça dessinés en quelques pointes, mais qui sont vraiment 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 amusants. Et lui, en fait, va commencer à se rendre compte que il est assez mal achalandé au niveau des clients, entre guillemets, qu'on lui envoie. Il se fait un petit peu avoir. Il a un collègue à côté de lui, un autre agent comme ça de préparation vers l'au-delà, qui lui fait de bien meilleures affaires avec des vrais clients qui eux ont un pont d'or vers.
Parce qu'il faut préciser qu'il y a trois moyens d'accéder à cette zone de l'au-delà. Mmh. Il y a à la fois une espèce de bateau, un paquebot magnifique.
Il y a plusieurs classes.
Plusieurs classes. Il y a un train, genre, soit de l'équivalent de l'Orient Express. Et puis il y a aussi le voyage à pied, qui met beaucoup plus de temps pour y arriver.
C'est vraiment la loose, ça. C'est vraiment c'est le prolo qui rame pour...
C'est la loose. Et Manny va s'apercevoir, en fait, qu'il y a une espèce de... Au sein de cette bureaucratie, qu'il y a une espèce de corruption.
Bien sûr.
Qu'il y a de la corruption qui fait que certains clients sont privilégiés par rapport à d'autres.
Donc il y a de la manigance, même là-bas, hein, même dans, voilà, dans l'au-delà, ça se passe pas très bien. Il y a de la manigance. Alors évidemment, le film, le jeu, pardon, parce que justement, je voulais parler des films. Comme souvent chez Schaeffer, il y a des vraies inspirations du côté hollywoodien. On sent qu'il aime le cinéma, le vrai cinéma hollywoodien. Et puis là, bah, évidemment, on pense à Casablanca, où il y a vraiment des citations quasiment claires et nettes. Voilà,
dans la première année, après certaines péripéties, il arrive, il est le patron d'une espèce de bar casino, et il retrouve en fait son acolyte. Alors j'adore je ne me rappelle pas du nom de ce monstre.
Je l'adore,
il me fait beaucoup rire. Je me rappelle plus. Oh, yeah. Et il le retrouve Clotis. Voilà, il le retrouve en train de jouer au piano. Voilà.
Et moi, c'est les démons qui m'ont fait souvent rire en y rejouant. C'est le look des démons et ils sont complètement improbables.
J'aime beaucoup les castors de feu.
Ah mais ils sont, c'est les démons castors. C'est assez incroyable. Et donc voilà, c'est vraiment. Alors c'est un jeu important pour ça, parce que vraiment il y a cette patte, il y a cette écriture, il y a ce style vraiment en Schaeffer qui moi m'a souvent fait penser à une sorte pour moi de cousin éloigné de Tim Burton, parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment des parentés dans cette façon d'aborder les personnages, les univers, etc. Et puis c'est aussi un titre important parce qu'il fait, comme tu disais Erwan en préambule, il marque la fin d'une époque. Alors c'est assez étonnant parce que on dirait que c'était presque prévu, le look des personnages. Déjà, bon, on est quand même dans un univers morbide, on est dans un univers un peu comme ça de fin de règne quelque part, hein, de personnages, et ça quelque part ça représente l'état peut-être du jeu d'aventure à l'époque, puisque déjà lorsqu'il sort, LucasArts décide de laisser tomber l'interface point and click qui a quand même fait sa notoriété,
Scum.
Le fameux Scum, ouais. Est mis au rancard, ça y est, ouais. Et là un nouveau moteur Grimmy est mis en route. Alors lui, c'était, je crois, il découlait du fameux moteur Sith qui équipait les Jedi Knight et compagnie, qui étaient déjà en 3D. Donc déjà, on tourne une page à ce niveau-là. Le gameplay change, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur du point and click techniquement, on est sur du contrôle direct, le fameux contrôle aux touches à la Resident Evil, parce que Resident Evil est passé entre deux. Hein, les Alone in the Dark, Resident Evil sont là depuis quelques années. Ça a évidemment impacté sur la façon de mettre en scène, sur la dynamique de gameplay. Et donc, évidemment, Grim Fandango, il s'inspire de ça. Donc, on est avec ces contrôles tanks qui ont fait pas mal parler à l'époque, où on est en contrôle direct, on dirige son personnage, donc on ne clique plus à l'écran sur un endroit où aller, mais on le contrôle. Et il n'est pas d'une vélocité totale. Donc déjà, ça remet en question. D'ailleurs, il y avait des bonnes idées, hein, parce qu'on n'a pas ce curseur pour détecter les objets activables, mais on suit le regard du personnage qui regarde là où il peut trouver une détection, enfin un objet à activer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais on sent que le genre se pose de grandes questions sur son avenir, et c'est aussi une date, Grim Fandango, parce que c'est un relatif un succès. Il se vend pas très bien, il fait 500 000 exemplaires.
Maximum.
C'est ça sur la durée de vie, et c'est pas scandaleux, mais c'est loin de ce qu'attendait LucasArts. C'est quand même un jeu qui a dû coûter à certains prix, et ça a quasiment signé la fin du genre. Il y a eu, je crois, encore un Monkey Island juste après.
Mais il est sorti sur console à l'époque, ou...
Il n'est pas sorti sur console, il était uniquement PC.
Alors que normalement, il aurait pu sortir sur PlayStation.
Il aurait pu, mais je pense qu'à mon avis, en plus, vu les contre-performances, n'ont pas dû aider non plus à le faire passer sur console. Voilà, donc voilà, c'est un titre intéressant pour tous ces.
Mais justement, est-ce que quand on y repense à posteriori, est-ce que, enfin, c'est l'œuf et la poule, est-ce que le jeu d'aventure, est-ce que c'est fini avec Grim Fandango, ou à cause de enfin, le point and click aussi, Grim Fandango, l'échec de Grim Fandango est aussi peut-être une des raisons où, alors, pendant des années, on n'a plus entendu parler de jeu d'aventure.
C'est que pendant des années, c'est-à-dire que c'est la fin d'une période, oui. C'est la fin de la période des grandes boîtes LucasArts, Sierra qui sont dessus en force. C'est la fin de cette période-là. On sait que le jeu d'aventure va renaître sous d'autres formes, avec d'autres acteurs par la suite. Par contre, oui, je pense que même dans son gameplay, comme je le disais à l'instant, on sent qu'il y a une volonté de se remettre en question, de dire, voilà, la 3D arrive. En face de ce jeu, on a des Half-Life, on a d'autres formes de narration, de mise en scène, de scénarios qui sont dynamiques, ouais. Qui poussent les bécanes en 3D. On a les cartes graphiques qui commencent à... Enfin, voilà. Il y a tout un... tout un phénomène qui fait que le point and click il prend un coup de vieux parce que il repose sur des mécanismes qui ont quand même déjà à l'époque quelques années et qui avaient une vraie remise en question. Et ouais, il a été un détonateur et pas mal d'éditeurs se sont dit Grimm se plante, LucasArts se plante avec un jeu comme ça, on va réfléchir, on va plutôt aller sur le FPS ou d'autres formes de narration pour raconter des histoires. En revanche, pour parler donc de cette version remasterisée, parce que c'est quand même le sujet aujourd'hui, donc c'est important parce que moi, quand j'ai appris la conférence Sony que ce jeu revenait, enfin, il était disparu des radars depuis des années. Il faut se rappeler que LucasArts avait emporté dans sa tombe ce jeu parmi d'autres. Il y a plein de jeux LucasArts.
Mais il y avait quand même un modeur qui travaillait dessus pour faire une version point and click.
Exactement. Il l'avait publié, je crois. Il avait publié, il me semble, une version trafiquée. Mais bon, voilà, on ne pouvait pas accéder au jeu si facilement que ça. Ou alors, il fallait trouver une galette d'origine du jeu. Bon, ça devenait compliqué. Il n'était jamais ressorti. Tout a été décanté, évidemment, lorsque Disney a racheté le groupe Lucas il y a quelques années maintenant. Tout le monde criait un petit peu à l'époque, mais finalement, ça a quand même pas mal décanté les choses au niveau des droits. Et puis Disney, il est pragmatique, hein. Il sait qu'il a quand même quelques licences comme ça qui peuvent bien fonctionner. Et voilà, aujourd'hui, on peut retrouver ce jeu-là. Je pense que ce ne sera pas le dernier. Schaeffer, je crois, a déjà annoncé que Dev's Tentacle était aussi en remaster déjà dans les prévisions. Donc ça, c'est des bonnes choses, c'est que ces jeux-là vont revenir. Et ça, ça fait plaisir. Et Grim Fandango, on ne l'avait pas vu depuis 98. Il avait un petit peu disparu, il n'était pas sur les Good Old Games, il était nulle part. Là, il est arrivé enfin avec cette version. Donc pour faire simple, cette version, elle reprend le jeu d'origine. Ce n'est pas une remise à neuf intégrale. Et quelque part, tant mieux. Moi, je préfère autant ça. Pour faire simple, ce qu'on a, c'est qu'on a les plans d'origine, les fonds en 2D du jeu, parce que le jeu... Pour resituer, il est un peu comme un Resident Evil, ça j'en parlais tout à l'heure. On est sur des plans 2D réalisés en 3D, mais fixes, en bitmap finalement, et des persos en 3D animés dedans. Donc les fonds 2D, eux, ne sont pas modifiés, ce sont les fonds d'origine, et seuls les personnages, on peut cliquer avec le R3 de la PS4, on passe des anciens à crénelés, un peu avec coupé à la serpe, à des versions qui sont un petit peu mieux coupées, avec quelques effets de lumière aussi qui ont été ajoutés. Voilà, mais... À la limite, peu importe. Ce qui compte, c'est que le jeu, on retrouve toute la saveur. Et surtout, alors moi, un truc qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'on retrouve la VF d'époque. Et alors moi, je vais vous dire, peut-être que les puristes vont s'arracher les cheveux à distance, mais alors moi, Grim Fandango, c'est un peu comme voir Ghostbusters. Moi, je regarde jamais Ghostbusters en VO. Je suis désolé, je regarde en VF. Ça fait partie de... Et moi, Grim Fandango, c'est pareil. Moi, je regarde en VF. Et on a une VF, mais qui est
très bonne.
Mais qui est excellentissime. Qui est
très bonne. Mais je regrette, mais c'est quand même regrettable qu'ils aient pas pu mettre non plus la VO. Enfin, c'est un peu
ça, on peut vraiment... pas switcher, c'est ça.
Mais j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est dommage quoi. Ils ressortent le jeu. Ils auraient quand même pu l'ajouter, faire un petit effort.
Moi, j'avais tellement peur
d'avoir le choix.
Je craignais tellement que les droits de la VF soient compliqués. C'est souvent le cas. Et là, non, on a cette VF avec Mario Santini qui joue donc le perso principal. Alors lui, on l'a entendu dans plein de rôles. J'avais noté rapidement comme ça. Il jouait souvent le Chuck dans les Monkey Island. LucasArts parlait. Il jouait Robert Davi dans les Goonies. Quand même, c'est pas rien. Il jouait Michael Ironside dans la série V, enfin il jouait le Beetlejuice, enfin voilà, il joue un personnage en Cobra de Stallone, enfin bon, voilà, un personnage qui a une voix, et puis il est fabuleux dans ce rôle, il colle tellement au personnage, et c'est du pur bonheur d'entrer cette VF.
Je sais pas si vous avez remarqué, chers auditeurs, mais on a lancé Patrick sur Grim Fandango, alors après, s'en est suivi...
Mais c'est un jeu important.
C'est un jeu important, venu.
Oui, pour un nouveau venu, exactement, parce que j'avais pas joué quand il était sorti en 98. Donc voilà, je l'ai installé. J'y suis allé un peu comme, parce que effectivement, tout le monde dit crie au chef-d'œuvre. J'y suis allé un peu comme on entre dans un musée, quoi. C'est-à-dire
sans trop toucher les.
attention, c'est ouvert. Ne pas toucher, ne pas mettre les mains sur les vitrines. Et je trouvais que c'était assez très charmant. J'avais vraiment beaucoup aimé les points forts que vous avez soulevés, c'est-à-dire les dialogues qui sont admirables de finesse et de drôlerie, ainsi que les personnages. Je reviens sur mon préféré, je sais plus comment il s'appelle, Golis.
Oui, attends, c'est
Bon, enfin bref, j'ai beaucoup aimé Glotis. Glotis,
donc vraiment tout ça. Oui, qui trafique les voitures et tout ça.
C'est vraiment drôle.
C'est complètement barré. C'est ça qui est.
Oui, c'est très barré. Et tout le mélange entre l'atmosphère, justement, un peu donc aztèque autour de la mort, et puis le côté néo-noir policier.
Exactement.
Où on se croirait un peu dans Chandler, mais mélangé justement. Bien Chandler sûr. Mélangé avec des rites mexicains.
Bien
donc
sûr.
C'est vraiment étrange.
C'est unique.
C'est unique. Alors comme j'étais comme au musée, donc j'ai pas mal utilisé la touche R1 qui permet d'accéder à ce que je trouve vraiment génial, c'est-à-dire aux
solutions.
Non, commentaires. Les commentaires sont vraiment les bienvenus.
Il y a Schaeffer,
et à la limite, moi, je me serais vraiment presque laissé guider en écoutant seulement les commentaires. C'est dommage qu'ils aient pas prévu ça, c'est-à-dire juste pouvoir se balader, laisser le personnage évoluer lui-même et puis écouter les commentaires en même temps, comme dans un film. Moi, ça m'aurait bien plu parce que les commentaires sont souvent assez drôles, assez pertinents. Je me rappelle, il y a Tim Schaeffer qui raconte dans un des commentaires qu'un des acteurs qui s'appelait Peter Lorre, un des acteurs donc pour la voix, était venu, donc ça avait été fait chez Lucas Hart. Il savait pas pourquoi elle allait venir et en fait au même moment à Hollywood, il y avait toute la rumeur comme quoi Star Wars, l'épisode 1, il y avait le casting qui était en train de se faire. Et le type, en fait, il au téléphone, quand il à faire l'appel, il était un peu comme ça, un peu tremblant, excité. Et puis, il arrive chez Lucas et il retrouve seulement Tim Schaeffer tout seul dans le studio. Et en fait, apparemment, il était un peu déçu quand même. Voilà, parce qu'il s'est dit, bon, voilà, c'était pas Star Wars. Donc, il y a plein de petites anecdotes qui sont vraiment très intéressantes, très marrantes. En revanche, moi, je trouve que ce qui me plaît pas, c'est les énigmes, en fait. Je trouve qu'elles sont assez tordues.
C'est la formule LucasArts. Hein,
je trouve qu'elles sont assez tordues et qu'elles relèvent pas forcément de la logique.
Ah mais non, mais c'est la logique. Quand on rentre dans ces jeux...
Je trouve que c'est parfois un peu pénible, vraiment.
Peut-être plus pénible aujourd'hui qu'à l'époque.
D'autant plus qu'il n'y a aucun système de solution. Enfin, quasiment pas.
Et à l'époque, il n'y avait pas Games FAQ. Hein,
voilà, exactement. C'est là où on se dit qu'on a changé dans la façon aujourd'hui d'aborder les jeux. C'est qu'à l'époque, on traînait un jeu comme ça, mais pendant des mois. Et comme tu dis, on n'avait pas le net. C'est-à-dire que, ou très vaguement, en 98, c'était... On s'accrochait, quoi.
Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique. Ça...
C'est aussi clairement une des raisons pour laquelle le jeu vidéo d'aventure a périclité.
Qui s'est transformé.
Oui, mais il s'est transformé. Mais justement, il s'est transformé vers quoi ? Vers une narration plus fluide.
Plus fluide.
On arrête un petit peu d'entrecouper comme ça une narration avec des sortes d'obstacles infranchissables ou très compliqués à franchir et qui sortent complètement le joueur de l'histoire. Ça n'empêche pas de mettre des énigmes, des petits trucs rigolos ou des petits puzzles comme ça dans un jeu, mais pas de telle manière que le joueur se retrouve bloqué.
Mais les puzzles, ils sont pas forcément très intéressants non plus. C'est-à-dire qu'ils sont pas, ils sont pas intellectuellement très très satisfaisants. On n'a pas l'impression d'avoir une récompense en fait, vraiment une récompense, une satisfaction après les avoir fait. Des fois, elles sont tellement, certaines énigmes sont tellement tirées par les cheveux qu'on se dit mais bon, pourquoi nous imposer ça ?
C'est le syndrome de tu essayes tout ce que tu as dans ton inventaire, dans tous les sens, et ça c'est vrai que c'est pas...
Mais bon, moi j'aime pas quand les énigmes sont mal foutues. Enfin, je trouve que certaines sont un peu mal foutues, quoi, et voilà, que ça brise un peu le rythme du jeu. Cela dit, c'est un plaisir, voilà, de le parcourir. Mais moi je le parcours vraiment plus comme aller dans un musée.
Une visite, c'est
chouette.
Un petit retour dans l'histoire du jeu vidéo, donc avec ce Grim Fandango Remastered, disponible sur les consoles.
Qui n'est pas très cher d'ailleurs, il y a une quinzaine d'euros, je crois, sur PS4, en cross-buy avec la Vita. Donc ça, c'est plutôt sympa.
Et sur PC.
Sur PC.
Bien sûr. Oui, ce serait dommage quand même que Grim Fandango ne sorte pas sur PC, il ne faut pas déconner non plus. Et là, on va faire un petit tour du côté d'Arcadia Bay, dans l'Oregon, dans le nord-ouest des États-Unis, avec Life is Strange. Sorry. Chrysalis, donc le premier épisode de Life is Strange, jeu d'aventure en 5 épisodes proposé par Dontnod, le studio parisien qu'on connaît bien pour avoir réalisé Remember Me il y a 2 ans. Oh là là, c'est horrible de faire un podcast avec un rhume, je sais pas, ça devrait être, c'est horrible. Bref, donc du coup je vais vous laisser la parole. Donc Life is Strange, Joël, tes premières impressions, premiers ressentis par rapport
Vraiment très bonne quoi, vraiment très bonne. Bah, donc Dontnod, on les avait un peu abandonnés il y a un ou deux ans quand Remember Me était sorti. Et puis a connu quand même une sortie peut-être un petit peu difficile, c'est-à-dire Dontnod aujourd'hui se dit plutôt satisfait, se dit que le jeu s'est vendu par plusieurs millions d'exemplaires finalement au cours de voilà
il
au cours
il, y a parle, de, il parle de 2 millions
de 2 millions,
de 2 millions, 2 millions d'exemplaires, mais après on voilà il y a les soldes, les bundles, il y en a eu, il y a eu ce
bon, donc ils étaient peut-être un petit peu déçus, je pense. Et donc on les attendait pas trop revenir avec un jeu d'aventure à épisode. Première chose positive, c'est une femme qu'on incarne. Ils reprennent en fait, comme dans Remember Me, on va suivre le parcours de cette adolescente qui s'appelle Max.
Maxine.
Oh, moi je l'appelle Max.
Ouais, mais ouais. Maxine Caulfield.
Max. Donc qui est dans cette ville, petite ville de la côte ouest américaine.
Oregon,
je sais pas.
Arcadia Bay.
C'est pas où se passe les Goonies, non ?
Est-ce que Arcadia Bay est une ville fictive, il me semble ?
Je crois que c'est une ville fictive.
Ouais. Voilà. Bon, ça va. Bref, je passe sur les détails, on y reviendra sans doute, mais moi j'étais
Astoria,
très.
C'est Astoria.
Astoria. Ouais. J'étais très touché par l'ambiance, en fait, très. On va dire ciné indé américain, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment centré sur une espèce de mélancolie, de nostalgie de cette adolescente, qu'on accompagne en fait au début dans une salle de classe au lycée et qui se découvre en fait le pouvoir de remonter le temps. Vraiment très chouette la manière dont on joue. Donc on a des décisions à prendre, on peut remonter le temps pour avoir la possibilité ou pas de jauger des conséquences en tout cas directes de cette décision. C'est impeccable, mais moi c'est vraiment plus cette ambiance. Il y a la musique donc qui a été composée par Jonathan Morali de Cinemateurs. C'est un jeu qui m'a plu par toute cette quantité de détails qui ramène presque à sa propre adolescence. Ça va des posters qui est dans le mur de la chambre de Maxine ou de son amie Chloé. Ça va des blagues potaches que s'envoient les lycéens dans la salle de classe. Ça va de la manière dont les adolescents parlent avec les adultes. Il y a plein de choses, mais vraiment c'est une accumulation de détails qui fait que on est vraiment, c'est une œuvre sensible.
Il y a une justesse dans l'écriture, dans les dialogues,
complètement. Ouais. C'est-à-dire
exactement. Ouais, je suis d'accord.
À la différence peut-être justement d'un Walking Dead dont peut être un petit peu juste. Bon, on est vraiment dans Walking Dead, on est vraiment dans le registre fantastique, mais parfois un petit peu artificiel. Là, tout sonne effectivement juste, Donc, j'ai vraiment très touché par ça. Il y a cette fonction centrale de retourner dans le temps que le développeur explique par cette nostalgie en fait de l'adolescence, c'est-à-dire voilà, c'est une époque charnière où on fait des choix qui peuvent s'avérer décisifs dans nos vies. Et moi je m'en suis pas tellement servi par exemple de ce pouvoir. J'ai plutôt
accompagner cette...
Tu as assumé tes décisions.
J'ai assumé, oui. Ouais. Non, mais pour ne pas briser le rythme, j'ai très peu utilisé ce pouvoir et j'ai accompagné cette fille, Max, au cours de cette première où... Je crois que ça se déroule même en 24 heures, cette première journée.
Ouais, c'est... Ouais.
Et,
3 heures de jeu, à peu près.
3 heures de jeu.
Ouais, je pense, à peu près.
Voilà, avec des scènes qui se déroulent à la fois au lycée, dans la maison de sa meilleure amie,
Maxime. Il se passe plein de choses en 2-3 heures. Il se passe pas mal de choses.
Il se passe plein de choses. On prend et tous les personnages, je trouve, sont bons, quoi. C'est-à-dire, elle rencontre tout. Elle va rencontrer, je sais pas, une cinquantaine peut-être de personnages qui ont plus ou
peut-être une vingtaine, ouais.
Un peu plus, si on compte ceux du lycée. Oui, peut-être une vingtaine.
Ça fait beaucoup, 25, peut-être. Ouais.
Et chaque fois qu'elle rentre en relation avec quelqu'un, on y croit, on y est, et on a envie de découvrir ce monde qui s'offre à nous. Pour l'instant, donc, c'est le premier épisode. Il y a une disparition. Voilà, il y a quand même une espèce de trame principale où il y a une disparition un peu étrange d'une étudiante, et on se doute que, pour l'instant, à la fin, bon, j'en dis pas trop pour pas spoiler, mais je pense que cette disparition va prendre de plus en plus d'ampleur au fil des épisodes. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une perle, quoi. Ouais. J'ai envie de voir. Je dis voir. J'ai même pas envie de jouer. J'ai envie de voir la suite, en fait, vraiment.
Patrick.
Ouais, je suis d'accord avec vous sur le côté très juste de l'écriture. C'est tout de suite ce qui ressort, alors que c'était assez. Ça peut être un piège, de se mettre, de mettre en scène comme ça l'adolescence. On sait.
Et surtout, c'est pas facile.
Non, mais je repense
avec les codes. Pardon.
Comment ça s'appelle, Infamous, où il y avait un ado adolescent.
Ouais, mais ça, il était raté.
On tombe vite dans les clichés.
Et c'est
d'autant
facile
plus
de tomber dans
les clichés lorsqu'on est sur, le contexte américain, etc. Voilà. Et au contraire, je trouve qu'au contraire, je suis d'accord avec toi, Joël. L'écriture est juste. Et c'est amusant parce que cette héroïne qu'on incarne finalement. Elle parle pas tant que ça, mais on ressent que ça bouillonne énormément en elle, que dans sa tête, il se passe plein de choses. Et tout ça passe très très bien à l'écran. Je trouve qu'on comprend très très bien tous les sentiments par lesquels elle passe, même s'ils sont pas tous forcément écrits. Enfin, il se passe plein de choses en 3 heures. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de vivre plus que 3 heures avec ce gameplay. Et donc voilà, moi, je trouve que l'univers est bien posé. Comme tu disais, c'est vrai que c'est un tremplin vers la suite. On espère que la suite va se développer. En tout cas, les bases sont là. On est tout de suite embarqué par l'histoire. Et j'ai bien aimé le départ très vite. On est très vite dans l'action. Lorsqu'on est dans la salle de cours, directement, on est dans l'action. On est tout de suite aux commandes. Ça part très vite. Le jeu avec le temps qu'on sait va devenir assez important dans le jeu est très vite mis en scène. On apprend très vite à le jouer. Et ça, évidemment, moi, c'est un élément qui m'a intrigué très très vite parce que le jeu d'aventure, enfin, c'est un sujet qui m'intéresse, évidemment. Et je trouve que cette notion de pouvoir comme ça jouer avec le temps est, je trouve, très intéressante. Parce que depuis quelques années, on parlait de... Parlons. On parlait de Telltale Games, on parle de Quantic Dream aussi, qui sont aussi dans les mêmes courants. On parle de plus en plus d'expériences, comme tu disais, Erwan, tout à l'heure, d'expériences fluides, où on fait des choix très vite. Il faut aller très vite, faire des choix. Et ce sont souvent des choix qui sont, hop, sauvegardés, on continue son aventure. Ouais. Et on se dit, bon, faut pas regarder trop derrière, je continue, tant pis, j'ai peut-être fait des erreurs, je dois vivre avec mes erreurs. Je vais continuer à partir avec, je vais l'assumer, et puis je vais peut-être finir mon jeu sans trop savoir est-ce que j'ai fait les bons ou mauvais choix. Moi, je sais que, par exemple, Heavy Rain, j'avais retourné dans tous les sens pour voir les différents embranchements. The Walking Dead, non, je l'ai fait une fois et je n'avais plus envie de le refaire parce que j'avais vécu mon histoire. Là, j'ai trouvé que c'était intéressant de questionner cette règle du choix qu'on doit faire aujourd'hui. Avoir aujourd'hui, sur ce titre-là, au contraire, déjà, on n'a pas de timing pour faire son choix. Déjà, c'est une première chose. Donc, on a le temps de jauger et surtout on peut revenir en arrière, refaire son choix. Alors sur le coup, c'est surprenant, on se dit mais ça va complètement à l'encontre de ce que je fais depuis 5 ans dans mes jeux d'aventure. C'est-à-dire que là, je peux faire une erreur et revenir. Est-ce que ça ne va pas être répétitif? Alors ça, c'est la première question. Et puis très vite, on se comprend que non, parce que la force, pour moi, de ce qu'on a pu voir dans ce premier épisode, c'est que l'équipe a su intégrer cette replayability des séquences dans le gameplay lui-même. C'est-à-dire qu'on apprend des choses en faisant une action, on revient en arrière, on assimile ce qu'on a fait, et on le réutilise dans un autre embranchement. Alors moi, je trouve que c'est super intéressant de jouer justement avec l'acquis des choses qu'on fait dans une branche, de la réutiliser dans une autre branche, comme si on était en plusieurs dimensions qui s'ouvraient. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et même... Pour conclure, moi je dirais que même que moi j'y vois quasiment presque un méta-jeu. Alors peut-être que je vais un peu trop loin, mais moi j'ai un peu l'impression que c'est un jeu qui finalement questionne le jeu d'aventure tel qu'on le connaît depuis maintenant des années et tel qu'on le voit depuis quelque temps, en mettant justement en scène cette faculté du personnage principal de pouvoir comme ça casser cette logique de choix singulier qu'on doit prendre vite. Et là, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de regard sur le jeu d'aventure en lui-même lorsqu'on joue. Et moi, j'ai eu l'impression de voir un petit peu les coulisses d'un jeu d'aventure en y jouant. Et j'ai trouvé ça passionnant de voir comment on pouvait comment se dessine un scénario. Et enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment intéressant. Ouais.
Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai juste, on va écouter Monsieur Fall, mais juste pour, et on reviendra sur Life is Strange. Mais moi, un des éléments qui m'a beaucoup séduit, et t'en as parlé, Joël, c'est cet aspect fantastique. L'aspect fantastique de Life is Strange, ça fait toujours bizarre de parler d'un jeu qui rappelle les films Sundance, sur la post-adolescence américaine et tout ça, et puis mettre du fantastique là-dedans, bon, on se demande ce que ça vient faire là. Et en fait, le fantastique est assez marrant parce qu'il ne concerne que le personnage principal, donc ouais, finalement que le joueur. C'est-à-dire que le fantastique est un gameplay.
Et c'est
juste.
C'est très juste. Et d'ailleurs, c'est un fantastique intime qu'elle vit de façon intime, qu'elle ose à peine évoquer. Elle a du mal à en parler autour d'elle. On voit que c'est même une gêne. Et quand on sait que c'est dans la période de l'adolescence, on découvre des facultés, des choses. Et je pense qu'il y a aussi ce rapport à quelque chose qu'elle découvre, cette héroïne. Et ce pouvoir apparaît un peu. C'est presque une malédiction. Elle ne le vit pas très bien. On se demande comment elle va le gérer. Ça, on le verra par la suite. Mais comme tu dis, je pense que c'est intéressant ce fantastique qui est très intime,
et qui ne contamine pas entre guillemets l'univers autour d'elle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on reste dans un quotidien très normal pendant tout le jeu, et il y a cet élément fantastique, mais qui ne concerne que le joueur. Finalement, c'est parce que forcément, même dans une histoire normale, quand t'as la manette en main, t'es un peu demi-dieu, donc tu fais un peu ce que tu veux, tu peux revenir à la sauvegarde précédente. Donc c'est une sorte de position du joueur qui est mise en gameplay, qui est assez marrante. On va revenir sur Life is Strange, mais c'est l'heure de retrouver Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose du zen, je vous propose du presque rien grâce à Kobayakawa, un jeu de Run Sasaki. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 15 minutes, et c'est édité en français par Superlude. Alors de quoi donc il est question dans Kobayakawa? Déjà, il faut savoir que c'est un jeu très tendance hype du moment, car il nous vient non seulement d'Asie, mais en plus il est dans ce que les gens aime en ce moment, c'est-à-dire le super light, le super épuré, le super zen. C'est-à-dire que Kobayakawa est une petite boîte qui ne contient pas grand-chose, juste 15 cartes numérotées de 1 à 15 et des petits jetons pour pouvoir miser, car c'est un jeu de prise de risque, c'est un jeu de pari, un jeu extrêmement simple et subtil. Alors en gros, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais la sensation ne va pas vous être évidente. Elle va être évidente quand vous allez jouer, car tout se passe au moment du jeu, c'est un jeu de bluff et de pari. En gros, je résume, chaque carte est numérotée de 1 à 15, elles sont mélangées, posées en pile face cachée au-dessus de la table, et chaque joueur va en recevoir une qu'il va mettre face visible devant lui, donc avec une valeur. Comme il y a 15 cartes, elles sont numérotées de 1 à 15, chaque valeur est à peu près unique. Et à son tour, un joueur va avoir un seul truc à faire extrêmement simple. Il va devoir piocher une carte de la pioche, en prendre connaissance secrètement, et la décider s'il la défausse face visible ou s'il la garde devant lui. S'il décide de la garder devant lui, il la pose face cachée, et la carte qu'il avait devant lui face visible, il la met dans la défausse, donc avec la valeur face visible. Chaque joueur fait ceci, une fois que tout le monde a fait cela, on décide de qui va participer au pari ou pas. En gros, on recommence par le premier joueur, et là, il décide s'il va miser des jetons ou pas dans la bataille qui va avoir lieu. On fait ça, chaque joueur décide s'il participe ou pas, et puis on fait la bataille. Alors, comment décide-t-on si on participe ou pas? Comment résout-on une bataille? C'est simple. Celui qui va gagner la bataille, celui qui va gagner les jetons qui ont été misés par tout le monde, est le joueur qui va avoir la valeur la plus forte. Et là, vous me dites, oh, c'est extrêmement facile. Si j'ai un 15, j'ai gagné. Oui, mais pas vraiment. Parce qu'en gros, tous les gens qui ont participé à la bataille vont révéler la carte qu'ils avaient devant eux, face cachée, si elle était face cachée. Ceux qui avaient une carte face visible, puisqu'ils ont gardé leur carte visible, ont leur carte face visible. Et là, on regarde qui a le plus grand chiffre. Sauf que le joueur qui aura participé à la bataille et qui aura la carte la plus basse va additionner la carte qui est dans la défausse sur le dessus avec sa valeur bien visible. En gros, si un joueur a un 15 devant lui, que quelqu'un avait retourné un 14 et qui pensait être le plus fort, et que quelqu'un a participé malgré tout parce qu'il avait un 5 par exemple, et que dans la pioche il y a un 11, comme il a le 5 qui est le plus bas Il additionne le 11, ça lui fait 16 et il a gagné, il rapporte tous les jetons. On fait comme ça un certain nombre de manches et la partie se termine et celui qui a le plus de jetons a gagné. Ça a l'air comme ça extrêmement couillon, mais c'est très tendu. Il y a du bluff, du calcul. Oh, c'est d'une finesse absolue, c'est ascétique, c'est très fort. Je vous rappelle le nom, Kobayakawa. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes. On peut pratiquer ça comme ça à la vite à l'arrache ou alors se creuser le crâne et se tordre les neurones parce que je vous le dis, c'est extrêmement fin et le jeu ne coûte que 12 euros. Ce n'est rien, évidemment, il n'y a pas grand chose dans la boîte. Par contre, vous allez passer un bon moment en jouant à Kobayakawa. Et moi, mon cher Arwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. On revient sur Life is Strange, sur Dontnod, le studio parisien. Qui nous sort donc Chrysalis, le premier épisode, 5 euros et 20 euros pour 5 euros par épisode, 20 euros pour la saison complète, quel que soit le support.
Je crois qu'il y a 6 semaines de prévu.
6 semaines de prévu entre chaque épisode. Voilà. Il y a quelque chose qui est très intéressant autour de ce Life is Strange. Si on revient à cette comparaison qui est forcé par rapport au jeu de Telltale, parce que finalement c'est Telltale qui a établi le modèle du jeu par épisode qui fonctionne, qui marche, et depuis Telltale, bon, il y avait eu des essais côté jeu indépendant.
Il y a eu Quantic aussi, il y a eu Quantic qui a ouvert aussi, enfin Heavy Rain.
Non mais par épisode, je veux dire.
Ah par épisode, pardon.
Sur les
d'accord,
systèmes par épisode, il y a eu Kentucky Route Zero dont on a parlé ici, même s'il tarde entre chaque épisode, ça a mis quand même un sacré paquet de temps. Il y a eu d'autres tentatives, mais vraiment celle-là, Life is Strange, c'est le premier qui est à la hauteur de Telltale, c'est-à-dire avec la même ambition qu'un jeu Telltale.
Et un gameplay différent.
Et un gameplay différent, mais ce qui est
non, mais
étonnant...
Il y a plus d'ambition, je trouve, que Telltale. Moi, je trouve qu'il met la barre, justement, avec son gameplay, il met la barre encore plus haut.
C'est intéressant.
Déjà,
alors.
Il crée un univers. C'est pas anodin.
C'est pas simplement une adaptation.
On est d'accord, il y a une création d'univers, et c'est toujours...
Mais ce qui est marrant, et j'en ai discuté avec eux, mais c'est de prendre... Parce que les jeux par épisode, Telltale a une longue expérience et finalement ça n'a marché que au moment de The Walking Dead qui a surcartonné, mais ils en avaient déjà fait des jeux par épisode qui avaient un peu surnagé, qui étaient pas des gros scolaires,
beaucoup de jeux scolaires.
Et ils ont trouvé avec The Walking Dead un truc qui est basé sur le rythme, la décision rapide, le rapport
entre les personnages.
Oui, et puis l'urgence toujours. Ouais. Le gameplay de The Walking Dead et des jeux Telltale, c'est un gameplay d'urgence, c'est-à-dire que chaque dialogue doit
puis on se sent mal souvent, enfin après une décision, on est obligé de trancher très très vite.
Il y a ce chronomètre sur chaque dialogue, il y a ces choix, est-ce que je vais sauver celui-là ou celui-là.
Toujours confort une partie de Walking Dead, on n'est pas confortable.
Et c'est là-dessus où ils ont fait... Et ce qui est étonnant, c'est que voilà, Telltale a trouvé une recette qui marche. Finalement, voilà, c'est ça, le jeu par épisode, Telltale a trouvé une recette qui marche bien. Et là, on a nos amis de Dontnod qui arrivent, et nous on va être les premiers post-Telltale à tenter un peu le même modèle, mais on va prendre exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à la narration, par urgence, on va faire une narration calme, tranquille, où on prend son temps.
Et qui là, d'ailleurs, petite parenthèse, me rappelle davantage le point-and-click traditionnel, dans le sens où on prend... Enfin, moi j'ai passé énormément de temps... En déplacement libre, plus que dans les Telltale, à me balader et à avoir tous les niveaux de lecture de toutes ces choses, comme on avait dans un point and click de l'époque. Dans un point and click, souvent, tu pouvais balader ton curseur et découvrir des choses qui n'étaient pas forcément utiles dans le déploiement du scénario. Là, c'est pareil. Il y a énormément de choses à lire, à consulter dans le jeu, des affichages. Il y a des tas de trucs qu'on peut accéder qui ne sont pas forcément dans l'action, en tout cas pour l'instant, mais qui sont des niveaux comme ça de construction pour élaborer l'univers et qui se fait par petites touches, par des affiches, par des petits messages, par des mails, il y a plein de petites choses. Et ça m'a vraiment rappelé c'est une des évolutions du point and click avec le passage à la 3D, on en parlait tout à l'heure avec Grimm, ça a été une grande remise en question. Là je trouve qu'on est quelque part dans les fondamentaux, dans cette façon de, ici en 3D, en naviguant avec ce perso tridimensionnel, on a encore quand même cette perception de l'environnement, on balade son curseur, son regard, on observe les endroits, on ouvre les tiroirs.
Cette interface à la craie comme ça qui est très
Elle est fabuleuse, moi j'aime beaucoup, enfin, je trouve qu'elle est très lisible, elle est très très bien fichue, très visuelle, et je trouve qu'elle marche bien, elle est claire, nette, et ça c'est un très bon point, je trouve. Ce rapport à l'environnement est très intéressant dans un jeu d'aventure, très important.
Et après il y a ça, c'est l'établissement d'une ambiance. Et il y a ce côté premier épisode. Alors moi c'est le truc qui il est prometteur à tous les niveaux, mais moi j'ai encore cette blessure intime.
Oula.
Non, j'ai encore cette blessure intime qui est Fahrenheit.
Ah.
Fahrenheit. Oui. Fahrenheit, cette introduction incroyable.
Dans le diner qui était
incroyable, cette introduction de Fahrenheit dans le diner, ouais. Cette ambiance.
Tension, grosse tension.
Et le Nawak. Et le truc, et c'est le seul truc qui me fait peur dans Life is Strange, c'est qu'il y a un potentiel à partir dans le n'importe quoi qui est énorme. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai l'impression qu'ils vont être sur un fil. Alors, c'est très bien, parce qu'on ne sait jamais, peut-être, et sans doute, et je l'espère, les gens de Dontnod, et avec, qui ont bossé avec un scénariste américain pour que justement, il y ait pas, le studio parisien ne peut pas trop décrire par lui tout seul un college américain. Donc, ils ont bossé avec des professionnels. Ils ont travaillé aussi beaucoup de leur côté. Mais... J'ai peur à un point, parce que voilà, il y a tellement de petits détails qui sont séduisants, mais ils peuvent en faire n'importe quoi. Enfin, je sais pas, est-ce que t'as le même sentiment?
Non, pas du tout. Moi, j'ai entièrement confiance, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, je trouve qu'ils sont tellement... tellement un bon début, je vois pas comment...
Mais t'as pas cette blessure, de Fahrenheit,
non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas, mais je vois pas comment il pourrait... comment il pourrait trop... Enfin, moins de s'écarter dans une histoire complètement fantastique, mais je crois pas du tout qu'ils vont passer par là. Non, moi j'ai plutôt confiance pour la suite, et j'ai hâte de la voir, d'y jouer à mon rythme.
Et on l'a établi, je sais pas, j'ai mon cerveau aussi, c'est pas trop ça. Mais on a parlé un peu rapidement, mais de la DA, de la direction artistique, qui est aussi. Il y a cette espèce de truc qui est dans la justesse, même dans la DA aussi. On a parlé de la narration qui était dans cette justesse et tout. Alors on n'est pas dans le type de budget de Beyond Two Souls, même si ça rappelle. Enfin, je sais pas si vous, ça vous a fait
pas du tout. Pas du tout. À part le fait que ce soit une héroïne, moi ça m'a pas du tout rappelé Beyond Two Souls. J'ai l'impression que d'être complètement autre part, quoi.
Autre part. Mais moi, ce qui m'a rappelé, pour moi, c'est pas une inspiration. Hein, Beyond Two Souls ne s'inspire pas. Eux, ils parlent plutôt de Gone Home, c'est ça.
Oui, c'est ça. Plus stylisé. Alors que Beyond, il y avait un photoréalisme qui était posé en modèle. Là, on est plus. Moi, je trouve que c'est plus stylisé en termes de. Tu vois, il y a plus de. On est moins dans le photoréalisme, on est plus dans l'interprétation.
Une interprétation de l'adolescence, où on fait des graffitis, où on dessine beaucoup de choses, où on fait aussi pas mal de photos. La photo est omniprésente, puisque Maxine est photographe, enfin, apprend la photo. D'ailleurs, ça, c'est assez intelligent de lui avoir justement donné ce rôle de la photo qui fixe les choses, alors que justement les choses peuvent. Et je pense que ça, ils vont en jouer de ça après. Ça, je pense qu'ils vont en jouer, donc, parce qu'après tout, elle peut prendre très bien des photos d'un présent qui ne sera plus, parce qu'elle aura pris un autre choix. Je suis persuadé que tout ça va sans doute jouer. Donc je pense que.
Oui, parce qu'il va peut-être falloir prouver aux autres personnages que c'est vrai.
Voilà. Mais je pense qu'il y a. Moi, je suis super excité. Je pense qu'il y a plein de choses encore à faire. Et je pense
mais ça me fait plaisir. Je crois que je vais suivre ton enthousiasme. Parce que c'est le cas. Je suis très, très enthousiaste. J'ai vraiment très envie de découvrir. Donc ce sera pour début mars le deuxième épisode de Life is Strange.
Non, et vraiment, ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas faire des trucs genre énormes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un personnage, par exemple, je sais pas trop, non, je veux pas trop déflorer, mais il y a un personnage dont on trouve qu'il est assez, qui est assez méchant, un peu suspicieux.
Le relou de l'épisode.
J'espère qu'ils vont pas en faire une espèce de grand méchant. Enfin, j'espère qu'ils auront fait des choix
J'ai pas mal pensé au Carrie de Palma en y jouant.
Moi j'ai pensé aussi à Mulholland Drive. À Mulholland Drive, sans le côté.
Il y a pas mal de références au cinéma dans le jeu. Il y a déjà pas mal de choses qui sont citées. Enfin, on sent que. Ça ouvre plein de portes, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Mais moi, j'ai pas mal pensé à Carrie, pour justement le côté, on parlait du pouvoir tout à l'heure, un petit peu caché, qui est vécu de façon intime, et Carrie, c'est un peu ça, c'est la révélation de pouvoir, de faculté paranormale, et ça peut-être aller dans ce sens-là, je sais pas.
Ouais, en revanche, il y a un truc que je trouve qu'ils explorent pas encore, et je trouve ça un peu dommage, c'est l'adolescence, c'est aussi le temps de la sexualité, et ça, pour l'instant, dans le premier épisode, ces gens, on a l'impression qu'ils sont tous un peu chastes, quoi. C'est un peu bizarre. Enfin, il y a des histoires un peu vaguement de coucherie, d'une...
Ah bah quand même,
c'est le préambule, Joël, attendons un peu.
Non, mais bon, je m'attendais à un truc peut-être un petit peu plus... Voilà, que ça questionne aussi. Peut-être
pas. Bon, c'est vrai que si durant les 5 épisodes, ils évoquent pas du tout la sexualité post-adolescente.
À 18 ans,
ça va être un problème. Mais bon, je pense que c'est plutôt bien parti là-dessus. Donc on attend tous pour le coup ici avec impatience le deuxième épisode donc qui devrait arriver début mars
et surtout de voir toutes les conséquences qu'on va avoir les choix qu'on a déjà fait qu'on peut déjà faire dès maintenant.
Et moi le truc de fou c'est que j'avais adoré dans Remember Me les scènes où on pouvait retourner les memories remix de Remember Me et j'avais regretté à fond qu'ils en aient mis que 4 ou 5 je crois dans
là,
tout
c'est quand même plus simple je trouve
mais là c'est tout le temps accessible. Aussi tout le temps on a tout le temps accès à
ça c'est moins compliqué c'est plus accessible on rentre beaucoup plus facilement dedans tout ça se fait en quelques clics enfin très vite on comprend comment ça fonctionne c'est le béaba des gâchettes
moi j'adore je passe mon temps à revenir moi contrairement à toi je passe mon temps à revenir dans le temps mais tout je veux voir toutes les embranchements
et c'est marrant parce qu'on a l'impression c'était pour ça aussi je disais tout à l'heure que j'avais l'impression que ça avait duré plus de 3 heures parce que finalement je me suis refait les scènes plusieurs fois on ressasse les scènes dans plusieurs cas de figure et ça c'est vraiment intéressant.
Life is Strange du studio Dontnod sur console et PC c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël ?
Ah, j'ai lu une super BD ou roman graphique, c'est celle de Riyad Satouf qui a eu c'est l'Arabe du futur.
J'ai pas lu encore.
Et voilà qui a été primé à Angoulême et donc Riyad Satouf va écrire une autobiographie en 3 parties sur sa vie. Dans cette première, il raconte son enfance avec sa mère française, son père syrien, une enfance qu'il passe à la fois en France, en Libye, en Syrie. Et c'est touchant, c'est drôle, c'est grinçant, c'est marrant, c'est attendrissant. Et c'est magnifique. Enfin, voilà, j'ai adoré.
Il y a de ça tout, de toute façon. C'est...
Patrick. Ouais.
Moi, en quelques mois, j'ai découvert Elementary. Alors, c'est une vieille série télé, vieille.
Non.
Il y a quelques années maintenant.
T'as découvert Elementary ?
Ouais, je viens de. En fait, le truc, c'est que le pitch m'effrayait. Enfin, un Sherlock Holmes transposé aux États-Unis avec un Watson féminin, je trouvais ça. Mais, et en fait, j'ai été surpris de voir que ça marchait bien, que ça fonctionnait. Et que. Enfin, voilà, une bonne surprise, alors que je n'y croyais pas une seconde. Alors, je sais pas si
mais c'est pas une série qui passe sur M6 ou.
Je l'ai pas vu sur M6, mais en tout cas, une bonne surprise alors que j'y croyais pas du tout. Donc voilà, je vais continuer à regarder. Voilà.
Et moi, je me suis mis à un livre parce que je me suis remis à le lire. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, j'ai un ami qui m'avait offert, je crois, c'était à mes 40 ans, un livre qui est une référence de la culture du fantastique écrit. Enfin voilà, cet ami, c'était Joël Métro qui m'a offert il y a 2 ans La Horde du Contre-Vent. Et alors, il paraît que c'était une référence. Pour plein de monde et je culpabilisais de pas encore l'avoir lu. Ça commence très très bien. Par ailleurs, c'est écrit par un des cofondateurs de Dontnod.
D'ailleurs, il y a une référence dans le jeu à la Horde du Contrevent. Dans le premier épisode, il y a une référence. Vous pouvez la trouver. Bon, je l'ai mis sur mon compte Twitter, mais vous pouvez la trouver.
Oh.
Voilà. Il y a une jolie référence. Ouais.
D'accord. Mais c'est très très bien. Enfin, j'en suis encore qu'au début, mais c'est écrit avec une énergie et on ressent tellement ce que vivent les personnages à chaque ligne. Enfin, c'est très 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 étonnant et je suis plongé. Voilà, j'ai plongé dedans. Je suis plongé. C'est bien ça. Ouais. Je suis tellement au top moi. Allez, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt ici même à la réalisation. C'était Marc Quattro. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.